Europe Soir Weekend, Jeanne Baron.
18h34, vous êtes sur Europe 1 et ça fait débat. De Nicolas Sarkozy à Patrick Balkany, nos politiques sont-ils impunis en termes de justice? On en débat. Avec vous, Béatrice Guillaumon, directrice générale de l'association Anticorps. Bienvenue. Michel Taube, fondateur d'Opinion Internationale. Bienvenue.
Bonjour.
Michel. Jean-Charles Deniau, journaliste, auteur du livre Balkany, l'impuni aux éditions Nouveau Monde. Mais avant que l'on commence à débattre, bonsoir Isabelle Balkany.
Bonsoir.
Votre époux est rentré à la maison. Rapidement, dans quel état il se trouve, votre époux?
Écoutez, très rapidement, je qualifierais ça de son retour de deux mots. Le bonheur d'abord, mais surtout la fatigue, parce que du coup, il a eu au moins deux interventions chirurgicales qui ont été reportées. Et il est terriblement atteigné, il a terriblement maigri. Il est fatigué, très 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 fatigué. Et moi, je sors d'une opération très lourde.
Est-ce que pour vous, votre mari et vous avez assez purgé votre peine? Ce que j'entends par là, est-ce que vous pensez qu'il y en a assez d'un tribunal médiatique?
Écoutez, il y a deux choses. Nous avons commis un délit, c'est clair.
Vous le reconnaissez.
Je l'ai toujours dit, ouais. Et nous l'avons toujours assumé. Mais les mots ont un sens dans cette langue. Hein, un délit n'est pas un crime, on est d'accord. Hein, en sémantique, en fait, moi j'ai fait de la sémantique à Nanterre avec M. Cohn-Bendit et je veux vous dire qu'un délit n'est pas un crime. Et puis, il y a le tribunal médiatique, comme vous dites. Je vous rappelle qu'en France, ça existe depuis le Moyen-Âge. Vous vous rappelez de la place de grève? C'était exactement ça. Alors aujourd'hui, c'est numérisé, c'est internetisé, si je puis dire, et c'est terrible parce que c'est anonyme. Et c'est à la fois un torrent de bienveillance.
Oui, vous l'aviez dit aussi, ouais. Oui, oui.
Je le constate, et un torrent de haine. Et c'est ça qui est terrible. Et bizarrement, les torrents de bienveillance sont sous de vrais noms et les torrents de haine sont sous des pseudos.
Isabelle Balkany, une dernière question. Après, nous allons débattre.
Excusez-moi de vous interrompre.
Allez-y, madame.
J'ai exercé le magnifique métier que vous exercez, vous encore. Et je peux vous dire que depuis toute ma vie, je me suis battue et je continuerai à me battre pour la liberté d'expression et la liberté de penser, qui sont l'apanage du journalisme et qui sont aussi inscrits dans la Constitution française et dans la Charte des droits de l'homme.
Mais ça n'est pas antinomique avec ceux dont nous parlons aujourd'hui. Une dernière question pour vous, Isabelle Balkany, et merci d'avoir nous avoir accordé ce moment. Vous l'avez dit, hein, je reconnais, nous avons commis un délit, vous avez été honnête. Et c'est tout à votre honneur. Est-ce que vous pouvez comprendre, cependant, que les Français, pour eux, il y ait parfois deux poids, deux mesures? D'un côté, il y a les puissants, et de l'autre, les autres.
Non.
Du bon ou du mauvais côté du périph'. Qu'en pensez-vous?
Je peux penser certains ont des convictions qui font qu'ils le pensent. Vous savez, quand Patrick a été élu à Levallois, c'était une ville communiste depuis 18 ans. Alors je peux vous dire que beaucoup pensaient ce genre de choses, les Levalloisiens.
Oui.
Ils ont beaucoup évolué, heureusement. Mais ce que je veux vous dire, ce n'est pas la question, c'est que je remarque simplement que c'est une jurisprudence, puisque c'est pour la première fois pour un délit fiscal qu'il y a un emprisonnement.
Merci beaucoup Isabelle Balkany de nous avoir
livré. Et puis je voudrais vous souhaiter un bon et vous dire que j'ai accepté de vous répondre.
Oui, c'est vrai.
Simplement par amour de votre station dans laquelle j'ai eu le bonheur immense de travailler il y a un certain temps.
On vous remercie parce que ça demande quand même du courage dans un débat comme celui-ci. Donc ça, c'est tout à votre honneur, peu importe ce qui se passe à côté au niveau juridique. Merci madame.
Oui, Europe 1, voilà, ce sont mes plus beaux souvenirs.
Merci madame, belle soirée à vous. Allez, on en débat sur Europe 1, hein, de Nicolas Sarkozy à Patrick Balkany. On en parle, nos politiques sont-ils impunis? Jean-Charles Deniau, vous êtes avec nous, à distance.
Oui.
Vous avez écrit ce livre, Balkany, l'impuni. Patrick Balkany est un impuni, pour paraphraser le titre de votre livre.
Ben, ce n'est plus le cas, bien sûr.
Et
bien
oui.
Sûr, il a été puni et grandement puni. C'est vrai, ce que vient de dire Isabelle Balkany est assez vrai, du début à la fin. Je le partage. Mais moi, je n'ai aucune haine, je n'ai rien du tout envers les Balkany. Simplement, ils ont été punis. Le problème, c'est que ils n'ont pas respecté ce à quoi ils avaient, ils devaient respecter, ce qu'ils devaient respecter, les histoires de bracelets, tout ça. Ils ont, ils n'avaient rien dit, si ça s'était passé comme ça. Il ne serait pas retourné en prison.
Mais comment vous l'expliquez, ça, justement, Jean-Charles Guignot, ce non-respect ?
Cette arrogance, ce non-respect des règles, c'est bizarre. Mais c'est parce que ces gens-là, ils avaient le pouvoir, ils pensaient ouais. qu'ils étaient au-dessus des lois, qu'ils étaient protégés. Et c'est vrai qu'ils ont été protégés. Ils ont été protégés pendant des années. Mmh. Ils ont été protégés par Pasqua, ils ont été protégés par Chirac, par Sarkozy. Et curieusement, quand François Hollande a été élu président de la République, il n'était plus protégé. Mmh. Et les juges ont commencé à faire leur travail.
Patrick Balkany, Jean-Charles Guignot, il doit des millions d'euros, très clairement. Il ne va pas payer. Oui. Il n'a pas l'argent de payer.
Non. Ben, je pense qu'ils doivent rembourser à peu près la valeur d'un SMIC par mois. On a calculé que s'ils payaient un SMIC par mois, il leur faudrait 200 ans pour rembourser leur dette.
Béatrice Guimond.
Plus exactement, ils s'étaient engagés à rembourser de mémoire. Il fallait qu'ils remboursent 7 000 euros par mois et ils disposent de 12 000 euros par mois.
Vous voulez parler de sa retraite ou des deux retraites cumulées ?
C'est ça. En réalité, là, ce qu'ils sont censés rembourser, les 4,3 millions d'euros, c'est en fait la dette fiscale. C'est l'imposition qu'ils n'avaient pas payée. Et concernant l'amende à laquelle il pourrait être éventuellement condamné dans le deuxième volet, qui est le même sujet, qui est le sujet du blanchiment de la fraude fiscale. Pour l'instant, le montant d'amende n'a pas été déterminé. La Cour de cassation a cassé l'arrêt et renvoyé devant la cour d'appel de Paris. Il y a quand même encore deux autres mises en examen.
Qui arrivent en octobre. Hein. Oui. Michel Taube, en règle générale, parce qu'on ne va pas passer tout ce débat sur Patrick Balkany, d'une part ce serait injuste, et puis d'autre part on ne va pas non plus faire notre tribunal médiatique. Il y a d'autres affaires. Ces affaires, d'ailleurs, Michel Taube, dans lesquelles sont trompés certains de politiques, elles sont majoritairement des affaires de gros sous. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que l'argent est sans cesse associé aux politiques ? Pourquoi ?
C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a, manifestement, il y a des femmes ou des hommes politiques, souvent plus des hommes apparemment, qui sont très attirés par l'argent. Mais ce n'est pas le cas de tous, heureusement. Ouais. Et c'est vrai qu'il est certain que certains ont profité de leur pouvoir politique pour s'enrichir ou pour profiter des largesses de la République. Pour vivre peut-être la vie de château ou voilà. Après,
ou des vies juridiques.
Après, Madame Balkany, Madame Balkany a parlé d'un acharnement médiatique, mais il y a un autre acharnement dans certains dossiers. Moi, je ne veux pas parler du couple Balkany, je ne connais pas du tout le dossier. Mais c'est parfois des acharnements judiciaires, parce que ce sont des politiques en face. Et je suis désolé... bien entendu, il faut que justice passe lorsque des manquements ont été constatés à quelles que soient les règles de la société ou du droit. Mais il ne faut pas être naïf. Il y a parfois des hommes politiques qui ont bénéficié d'un traitement judiciaire nettement plus rapide ou acharné, comme je le dis. Parce qu'ils étaient politiques ou parce qu'ils étaient... La caricature de ce que je dis, c'est François Fillon. Qui a bénéficié en un temps record d'une mise en examen et de poursuites pénales que d'autres hommes politiques auraient mis 2, 3, 4, 5 ans à être poursuivis.
Béatrice
Guimond, qu'un exemple.
Allez-y. Oui. Et après Jean-Charles Guignot, on vous entend.
Je ne juge pas de sa culpabilité
éventuelle. Ça me permet de prendre la parole aussi, pas uniquement en tant que directrice générale de l'association citoyenne Anticorps, mais aussi en tant que docteur en droit ayant fait une thèse de doctorat sur le sujet. En réalité, on ne peut pas comparer l'affaire Fillon avec l'affaire Balkany, parce que l'affaire Fillon, c'était des faits relativement simples d'usage de l'enveloppe de collaborateurs parlementaires. Quand on se pose la question, moi je vais vous donner quelques chiffres, je pense que c'est très bien pour les auditeurs, pour se resituer. Mmh. En France, on est 67 millions de Français, il y a 41 millions d'électeurs. Sur les 41 millions d'électeurs qui ont la capacité d'être électeurs et aussi de se présenter, il y a 577 448 élus de la République. La majorité l'extrême majorité de ces élus-là sont des élus locaux. Et d'ailleurs, ce sont des élus locaux qui exercent leur mandat, leur fonction, à titre bénévole. Ce sont les conseillers municipaux, parce qu'il y a 35 000 communes en France. C'est une ville rurale, on ne s'en rend pas compte comme
ça. C'est bien dommage qu'ils soient bénévoles.
Et tout à fait, il faudrait qu'ils soient indemnisés, je le pense aussi, comme vous. Et donc, en fait, quand on regarde ce chiffre-là, on se rend compte que le nombre de mises en cause pénales pour des faits de corruption, pour des faits d'atteinte à la probité, est en réalité très bas. Deux explications à ça. D'abord, les faits de corruption sont par principe opaques ou dissimulés volontairement, parfois. Et une autre chose, c'est parce qu'en fait, la majeure partie de ces élus, on peut le penser, sont, comme dirait Ségolène Royal, à leur tâche. Ils travaillent en réalité, ils sont au service de la chose publique. Mmh. Et après, dans l'ensemble de ces élus qui sont poursuivis, il y a deux situations en particulier, au moins deux situations qu'on peut diviser. Il y a ce qui relève d'une petite délinquance, souvent de la méconnaissance du droit, même si nul n'est censé ignorer la loi. Il y a une véritable méconnaissance de la part des élus, des gens, notamment... Et notamment, exactement, les règles en matière de probité, le droit de la probité est un droit particulièrement complexe. Mmh. Et donc, il y a une méconnaissance, exactement.
Beau,
on pourra en parler une prochaine fois si vous le souhaitez. Et on pourra même faire un colloque à l'occasion si vous le souhaitez.
Il n'y a pas un code de la probité.
Et écoutez, on attend des éditions pour ça.
Et
mais ce n'est pas le sujet.
Il y a encore Jean-Charles Deniau qui veut parler. Allez-y,
et en fait,
Béatrice.
Il y a des élus qui ne disposent pas de moyens nécessaires pour cacher ceux qui sont corrompus, pour cacher des faits de corruption, et à d'autres qui développent une intelligence corruptionnelle et qui relèvent, nous, ce qu'on appelle, on appelle ça la délinquance en écharpe, et qui relèvent de la délinquance économique et financière. L'affaire Balkany, ce sont, même si nous aussi, on pense que des personnes qui sont en situation de vieillesse ne mériteraient pas d'être incarcérées.
Des personnes vulnérables, notamment malades, etc.
Voilà, exactement, mais c'est pareil pour l'ensemble des détenus. Il y a 70 000 détenus, il y en a 15 000 qui sont dans des états malades, ils pourraient sortir eux aussi également. Et d'ailleurs, il y avait la prison de Fresnes, il y avait un dispositif qui permet d'accueillir des personnes dans des hôpitaux pour les prisons. Donc voilà, ça c'est aussi une réflexion. Et donc il y a des élus qui relèvent de la grande délinquance économique et financière et qui disposent de moyens particulièrement techniques, qui sont capables de faire des sociétés écrans dans des sociétés écrans avec des prête-noms, qui placent ces sociétés écrans dans des paradis fiscaux. Ouais. Et en fait, c'est particulièrement difficile de les poursuivre. Mmh. Et quand on voit le problème de l'histoire Balkany, c'est que le couple Balkany a déjà été condamné dans les années 90, en tout cas Patrick Balkany, pour des faits de corruption.
Vous voulez dire quoi ? Récidive ?
Il était en situation de récidive. Oui. Ce que nous, on pense à Anticor, c'est qu'il y a des règles simples qui peuvent être mises en place, comme le casier judiciaire vierge de certaines infractions à la probité et les infractions criminelles, et permettrait d'endiguer, de régler ce problème-là.
On va y revenir justement, Béatrice Guillemont. Jean-Charles Deniau, vous voulez rebondir depuis tout à l'heure, vous n'êtes pas physiquement présent avec nous, mais vous l'êtes en tout cas au téléphone, allez-y.
Oui, ce que je voudrais dire simplement, c'est que c'est une histoire de période. Dans les années 80, quand les Balkany et d'autres, il y en a d'autres, il n'y avait pas de financement officiel de la politique. Il fallait faire comme on pouvait. Il a fallu qu'il y ait les lois Rocard, Pasqua, Rocard et toutes celles qui sont suivies.
Ça veut dire qu'il fallait faire des accords hasardeux à droite à gauche pour trouver l'argent.
Il fallait financer la campagne électorale. Et pour financer, il y avait les fausses factures, il y avait toutes ces organisations, toutes ces entreprises qui crachaient au bassinet pour avoir des contrats, pour avoir... C'est l'histoire des emplois fictifs, c'est l'histoire des contrats et l'affaire des Hauts-de-Seine, l'affaire de Paris. Et le problème, c'est que il y avait des gens qui prenaient de l'argent, un pourcentage sur toutes les affaires pour la politique, et d'autres, comme les Balkany et d'autres, qui ont mis les doigts dans le pot de confiture se sont enrichis personnellement.
Mais c'est plus difficile maintenant.
Deux, trois choses. Ce qui est effectivement rageant avec les affaires comme Balkany et quelques autres... l'ancien ministre du budget socialiste, excusez-moi...
Jean Cahuzac.
Cahuzac.
Si vous avez un problème sur la corruption, vous appelez Béatrice Guillemont, elle les connaît tous. Hein.
Voilà. Sur quelques cas individuels, on va jeter l'opprobre sur toute une classe politique, ce qui est absolument dramatique, parce que comme vous le disiez, madame, heureusement, ils sont très peu à être corrompus, ou en tous les cas, avoir été, on va dire, convaincus de corruption.
Ou est-ce qu'ils sont très peu à s'être fait prendre ?
Non, mais la réalité est... Alors, le deuxième point, surtout, que je veux dire, parce que le temps passe vite, et c'est les solutions qui, moi, m'importent, surtout, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour... C'est que tant que les élus, quel que soit leur niveau, élus locaux, nationaux, européens, C'est aussi des affaires de corruption au Parlement européen, sur lesquelles un parti qui est arrivé en tête ou qui se dit être le premier parti de France depuis quelques années a été aussi condamné lourdement. Tant que les politiques n'auront pas un véritable statut, qui seront bien rémunérés, je le dis, bien rémunérés, et qui donc ils n'auront pas...
Est-ce entendable aujourd'hui?
Surtout que ça n'a pas cours ce que vous dites, parce qu'en réalité, ceux qui sont poursuivis pour des faits de corruption sont des gens qui sont à des postes exécutifs et qui bénéficient à ce titre d'indemnités et parfois de cumul d'indemnités au point d'avoir un écrêtement. Quand on parle par exemple de Carl Olivier, c'est un exemple, il cumule des indemnités.
J'aimerais bien finir. Lorsque vous exercez des responsabilités aussi importantes qui engage la vie de la cité, de la collectivité. Vous avez des pressions maximales, vous n'avez pas de week-end. Moi, je considère que vous devez être très bien payé. Et beaucoup mieux payé que ce que vous êtes, parce que sinon, il se passe ce qui s'est passé encore récemment avec un François Baron à la tête de l'AMF qui se retrouve 15 jours après à la tête d'une très grande banque britannique. Ce que je veux dire, c'est que...
On est sur les dernières minutes,
voilà.
Michel.
Donc, je pense que ça réglerait déjà un gros problème
de corruption. Il y a aussi cette question qui revient, se sentent-ils tout puissants? Ça, c'est une question importante. Qu'est-ce qui se passe psychologiquement? On a justement contacté Yvan Monem, qui est avec nous aujourd'hui. Yvan est consultant communication. Bonsoir, Yvan.
Bonsoir.
Yvan Monem, d'après vous, ces politiques, ils se sentent surpuissants? Est-ce que c'est presque une pathologie psychiatrique, j'ai envie de vous dire? Vraiment, je suis très sérieuse.
Alors, on peut effectivement positionner ça comme ça. Je pense que si on établit une ligne de démarcation assez claire entre folie et raison, on pense que le pouvoir peut rendre fou, il peut attirer des fous. On voit bien que François Hollande avait joué sur cette dimension en se présentant comme le président normal. Il visait sans doute son prédécesseur et Dominique Strauss-Kahn. Mais je pense que dans l'affaire Balkany, tous les ingrédients de la folie sont là, en fait, parce qu'il y a le besoin irrépressible d'être en situation de pouvoir sur le
monde. Non, mais c'est totalement excessif.
Terminé, donc, et d'occuper la place au sommet. Il y a au fur et à mesure de l'exercice du pouvoir cet isolement où ils n'écoutent plus que leurs collaborateurs directs, ils sont quasiment tous des courtisans, ce qui va induire cet isolement, la mégalomanie, un brin de paranoïa. Et puis il y a cette vie de clan avec l'entourage familial professionnel, l'axe du pouvoir, l'axe de l'argent. Et puis finalement, ce qui caractérise un peu ce côté pathologique, c'est l'idée qu'on échappe à la règle commune et donc les dérives avec les gros mots qui sont lâchés aujourd'hui, la fraude fiscale, la bien sociale. Ce qui me paraît intéressant, c'est que ça serait complètement simpliste de dire d'un côté il y a la folie des élites au pouvoir et de l'autre il y a des gouvernants de cette raison. Je pense que les Balkany ont été réélus à diverses reprises, malgré les rumeurs dans un premier temps, malgré les faits, les poursuites dans un deuxième temps, et quelque part on voit que le peuple souverain a validé en fait cette forme de pratique du pouvoir et qu'une majorité des assujettis de Levallois en a redemandé, et ça a joué un rôle de légitimation démocratique.
Donc vous voulez dire que conclure que tous les électeurs de Levallois sont fous, alors de cautionner un fou?
Pas fou, mais justement, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on parle de lutte contre la corruption, en réalité, on parle souvent des élus qui sont corrompus, on oublie les citoyens, les électeurs. En fait, effectivement, à Levallois-Perret, ce sont les électeurs eux-mêmes qui ont remis dans le fauteuil de maire et de premier adjoint le couple Balkany. Et en fait, simplement, et c'est ce que j'avais écrit dans une tribune au Monde récemment sur le casier judiciaire vierge, c'est que les électeurs eux-mêmes sont en situation de conflit d'intérêts. Parce que quand on regarde le rapport régional de la Cour régionale des comptes d'Île-de-France sur la commune de Levallois-Perret, on voit qu'en 2009, le déficit de la ville était de 785 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il y a eu plus d'argent que ce qu'il y en avait qui ont été dépensés avec beaucoup d'équipements, beaucoup de services, des piscines, etc. Et effectivement, on peut comprendre que les électeurs se disent il vaut mieux avoir quelqu'un qui était déjà en poste depuis 20 ans, malgré le fait qu'il ait déjà été condamné pour des faits de manière globale de corruption, plutôt que réélire quelqu'un qui ne connaît pas. En revanche, je vous disais une chose qui était très intéressante. Vous parliez des suites à donner. Et l'intervenant précédent parlait des règles, des premières règles. En matière de droit de la probité, les premières règles, elles remontent à la Révolution française, un décret qui imposait l'exil. Ça, c'est votre avis. Moi, je parle en tant que chercheur.
Laissez-moi finir. Mais il n'y a pas un droit de la probité. Vous mélangez le droit et des principes fondamentaux.
Non, c'est pas vous qui allez m'apprendre, en fait, l'objet de mes 12 ans d'études. Donc, laissez-moi finir, s'il vous plaît.
c'est une 25 ans, si on n'est pas d'accord,
oui.
On n'est pas d'accord.
Oui, mais c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord que vous avez raison. Donc je finis mes propos. En l'occurrence, il y a 40 lois et décrets qui ont été pris depuis les années 70. 40 lois et décrets, c'est énorme. Et depuis 2013, il y a à peu près une loi et demie par an qui porte sur ce sujet-là. Mmh. Le problème, c'est que du coup, le dispositif est très, très ample. Et dans ce dispositif-là, il y a des trous dans la raquette, comme l'absence de casier judiciaire vierge de certaines infractions, notamment à la probité.
Merci Béatrice Guimond. Juste, je vous sens très animée. Yvan Monnem, je sais que vous voulez rebondir, mais j'ai quand même une dernière question. Il nous reste 2 minutes et 52 secondes pour être absolument honnête avec vous aujourd'hui. C'est un débat formidable. J'aurais aimé qu'on passe plus de temps par ailleurs sur ce débat. Il y a une question, une vraie question. Les magistrats, leur carrière dépend des hommes politiques. Sont-ils libres ?
Ils ne sont, les procureurs de la République en France ne sont pas parfaitement indépendants.
Michel Taube.
Bah, je crois qu'ils ont déjà un peu plus... Alors d'abord, il n'y a pas de pouvoir indépendant. Quand vous lisez Montesquieu, le judiciaire n'est pas un pouvoir aussi indépendant que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Mmh. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Il n'est pas anormal que le politique discute avec le judiciaire parce qu'on n'est pas dans une bulle où tout doit être blanc et absolument parfait, surtout avec des droits d'une complexité absolument effarante. Donc voilà, après, les procureurs ont plus d'autonomie qu'ils n'en avaient dans le passé, et c'est tant mieux, et peut-être qu'il faudrait qu'ils en aient plus, mais en même temps, les situations sont complexes et la ligne...
Alors il faut repenser la justice, Yvan Monnem notamment, vous pensez qu'il faut repenser cette justice ? Il faut...
Moi, je voudrais dire une chose.
Dites-nous.
Vous entendrez ?
Dites-nous, on vous entend parfaitement. Allez-y.
Le rôle de la presse et de la justice pour réguler ces dérives, il est absolument fondamental. Ouais. Et je pense qu'il y a deux risques supplémentaires. Il y a un risque de folie perceptive, c'est-à-dire quand le peuple confond le signe et la chose. Ouais. Et il pense que les chars tricolores qui portaient en bandoulière, elles fondent le pouvoir. Non, elles représentent les attributs, mais ce n'est pas ça qui fonde le pouvoir. Ce qui fonde le pouvoir, c'est le respect des règles. Dans le cas de Bakani, on ne les a pas. Et le risque de folie identitaire, quand le gouvernement imagine sa légitimité par nature, quand Jean-Luc Mélenchon dit « le peuple, c'est moi », comme si là, il y a de la folie identitaire. Donc je pense qu'il faut revoir les règles de façon profonde. Alors, profite juste pour vous dire une chose. Allez-y. Moi, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « À la lisière », qui raconte un peu la façon dont cette folie nous guette tous. Donc je pense que le pouvoir est aussi guetté par la pathologie.
Merci à tous d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Merci pour la qualité de cet échange. Merci, certes court, mais on y reviendra, je vous l'assure. Béatrice Guimond, directrice générale de l'association Anticor. Michel Taube, fondateur d'Opinion Internationale. Jean-Charles Degnaud, journaliste, auteur du livre Balkany, l'impuni aux éditions Nouveau Monde. Et puis Yvan Monnem, consultant communication, qui nous a donc parlé de son livre qui vient de sortir et qu'on dévorera. Bien évidemment, à suivre sur Europe 1, Grégory Doucet, le maire Europe Écologie Les Verts de Lyon, sera mon invité politique. Criminalité à Lyon, obligation de quitter le territoire français pour les étrangers. Il répondra en direct au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, mais pas que. Ce sera dans un instant, après le journal de 19h, sur Europe 1, bien évidemment.